Bonjour, bonsoir. J'espère que vous êtes confortablement installés. Vous venez d'atterrir dans le safe space de la Banane Rose. Ici, nous parlons des sentimentalités et sexualités de tous les êtres humains, sans jugement ni tabou. Bonne écoute.
Merci beaucoup, Gabriel, pour ce très beau jingle qui va nous suivre tout au long de nos prochaines émissions. Ça pose un cadre. Nous aussi, on est bien installés, bien au chaud. Il fait très froid dehors, donc j'espère qu'on va pouvoir nous réchauffer avec et vous réchauffer avec nos conversations qui vont tourner autour du thème que vous avez plébiscité sur Instagram, qui n'est autre que les premières fois et leurs tabous. Je vais commencer d'abord par présenter l'équipe. Donc Mina, ce soir, fait sa première fois avec nous. Bonsoir.
Yes, coucou.
Est-ce que ça te fait plaisir d'être là? Comment ça se fait que tu t'es intéressée à la banane rose?
Bah, en vrai, c'est vrai, ça fait de ouf plaisir d'être là. Perso, j'aime beaucoup justement briser un peu les tabous sur les sujets un peu touchy, typiquement la sexualité, la santé mentale aussi. Et j'adore le concept de la banane rose. Et donc, voilà. Et en plus, je suis en médecine. Donc, si jamais il y a des questions sexo, j'y réponds avec plaisir.
Justement, ça, c'est vraiment un plus qu'on va avoir dans la banane grosse grâce à toi, parce qu'on est tous un peu en études genre et en sciences sociales, donc c'est vrai d'avoir un petit peu de scientificité dans tous ces discours, ça fera pas de mal. Ensuite, on a Philippe qui fait sa deuxième émission. Comment ça va ce soir?
Ça va très bien, et toi?
Ravi de t'avoir ici. Et Gabriel, du coup, qui fait la technique et qui nous partage sa sagesse.
Bonsoir, bonsoir.
Voilà, donc, pour démarrer les hostilités, vu qu'on parle de première fois, on va commencer par quelque chose d'un petit peu perso. Est-ce que vous auriez une première fois qui vous a marqué ou qui vous a changé au cours de votre vie?
Changé, je dirais pas ça comme ça, parce que j'ai toujours une relation assez conflictuelle en amour. Mais écoute, je me souviens, le premier souvenir qui me vient comme ça, c'est le premier bisou. Quand je dis bisou, je veux pas parler d'une galoche ou de quelque chose comme ça, non, le petit bisou sur les lèvres, voilà. Et du coup, c'était pendant les fameux jeux de la bouteille. Évidemment, yes. Je sais pas, je pense qu'on doit probablement tous y être passés à un moment ou un autre de notre vie. Mais du coup, voilà, je trouvais ça assez intéressant d'aborder comme sujet, le jeu de la bouteille. Et puis ça devait être aux alentours de... Je devais avoir quoi? Je vais donner une fourchette entre 10 et 13, je pense, parce que comme ça, je pourrais pas te donner un âge précis, mais voilà quoi.
Est-ce que tu avais précisé à la personne que tu as embrassée que c'était la première fois ou est-ce que tu l'as gardée pour toi?
Pour le coup, je l'ai gardée pour moi. C'est vrai que vu que tout le monde s'embrassait un peu à droite, à gauche, c'est pas vraiment le genre de truc où t'es là en mode par contre, c'est mon premier bisou, tu vois. Oh. Enfin, genre, donc.
J'ai embrassé le secret.
Pour le coup. Après, par la suite, quand on a. Parce que du coup, j'ai gardé des contacts avec cette personne en amitié. Et puis, je lui avais dit lors d'une soirée un peu « Ouais, mais tu sais que genre, techniquement, c'était mon premier bisou et tout.
Oh. »
Ah non, c'est trop chou. Donc voilà, mais c'est tout pour ma première fois niveau bisou.
Adorable.
Franchement, moi, mon premier bisou, c'était... toi, tu disais, oui, c'était pas galoche, c'était juste un bisou. Moi, je pensais que ce serait juste un bisou. Il a voulu galoche. Moi, j'ai pas ouvert la bouche. C'était vraiment... C'était très chaotique.
Et j'étais carnage.
Là, non, mais je veux pas. Et il continue d'essayer. Moi, je disais, mais je veux pas de ta langue, en fait. Genre, vraiment, enlève-la tout de suite.
Il s'est retrouvé devant un mur de dents.
Oui, il va laver les dents. Voilà. Non, c'était pas... Ah ouf, hein.
Sexy. Ouais. Ressentez vos partenaires quand vous les embrassez. Vraiment aussi, pincez lèvres, c'est pas bon signe. Arrêtez, mission abort, ça suffit.
C'est ça, si vous commencez à lécher les dents, enlevez la langue, vraiment.
Est-ce que tu aurais une autre première fois que tu as envie de partager, mis à part ton lavage de dents?
En vrai, moi, franchement, justement, on discutait avec Philippe tout à l'heure avant de passer à l'antenne. Et en vrai, genre, dans les premières fois, au final, ce qui m'a le plus stressée, c'était mon premier « Je t'aime », je pense.
Mmh. Genre, c'est vrai.
Vraiment, ça, c'était... Et du coup, c'est mon premier « Je t'aime », c'était avec mon copain actuel. Et genre, c'est lui qui l'a dit en premier. Et genre, moi, je l'ai pas dit en retour pendant genre un mois ou un truc comme ça. Mmh. Enfin, je l'ai mis en méga stress. Mais le jour où je l'ai dit pour de vrai, genre, j'ai pas trop osé. Je l'ai dit avec une toute petite voix. Et puis, au final, enfin... Cool, parce qu'on est toujours ensemble, mais voilà.
Oh.
Ouais.
Mais c'est vrai que le je t'aime est lourd de sens pour beaucoup de personnes. Il y en a qui le disent à tout va, d'autres qui attendent vraiment le bon moment ou des moments particuliers. Parce que même pendant la relation, certaines personnes n'aiment pas forcément dire je t'aime en partant. Préfèrent le dire dans des moments qui ont un sens.
Des moments forts, ouais. Exact.
Mais ça, on pourra revenir là-dessus sur les premières fois du je t'aime. Je pense que c'est une bonne direction de discussion. Et toi, Gabriel, est-ce que tu as une expérience à nous partager de première fois?
J'avoue que mon premier baiser, pardon, je m'en souviens pas du tout. J'ai réfléchi quand tu as partagé ta première fois en bisou et je m'en souviens pas du tout.
C'est compliqué, hein. Faut remonter vachement loin.
Faut remonter assez loin. Ouais. Et ouais, moi ça date depuis. Je pense que ça fait bien 20 ans pour moi. En plus. Ce qui fait que en fait, premier bisou, j'ai un peu de peine à situer. Autant ma première fois sexuelle, je m'en souviens, et c'était beaucoup dans ce truc d'homme. Il faut s'en débarrasser de la virginité. C'est quelque chose qu'il faut. Ouais. Il faut. C'est un cap pour passer pour être un homme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti lors de ma première fois. Peut-être beaucoup d'hommes l'ont ressenti aussi. Mais ouais, le fait de revenir à la maison et de dire « Enfin, je suis un vrai homme ouais. !» c'est un peu... Ouais, voilà, c'est une construction complètement sociale, mais ouais, j'avoue que j'ai ressenti ça la première fois. Et je ne l'avais même pas dit à ma partenaire que c'était ma première fois sexuelle en plus.
D'accord.
Dans le sens où sinon, c'était la honte.
Ouais, effectivement, on garde beaucoup ce secret de ne pas divulguer que c'est notre première fois. Il faut qu'on montre, entre guillemets, qu'on sait ce qu'on fait, alors que très clairement, on sait pas ce qu'on fait.
Exact.
Et puis que, genre, en fait, ça se ressent d'une certaine manière. Mais nous, on croyait que, bah, non.
Bah ouais, t'as l'impression que tu vas faire illusion, que tu vas porter un masque et tout, et en fait, non, en fait. Il faut savoir que ce que toi tu ressens, l'autre le ressent forcément un petit peu.
Ouais, bah oui, effectivement.
On se cache derrière des fois des a priori comme ça, mais non, en fait.
Non. Non.
C'est vrai qu'il y a cette pression qui, au final, est incombe en particulier à vous. Après, il y a aussi des femmes qui ne disent pas quand c'est leur première fois. Mais en soi, c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer parce que ça se voit et ce serait tellement plus agréable pour tout le monde si on pouvait justement exprimer ça ou justement prendre le temps. Anecdote, du coup, je pense avoir partagé la première fois d'un garçon qui ne m'avait pas dit que c'était sa première fois. Il était un petit peu plus jeune que moi, je ne le savais pas avant. Et ça se voyait vraiment dans l'interaction, dans la manière de toucher, dans la panique, en fait, qui se dégageait de lui. Et il était tellement dans son truc que je n'osais pas le stopper en disant « Écoute, est-ce que ça va ? Est-ce que c'est ta première fois ? Est-ce que tu veux qu'on aille doucement ?» En fait, il était tellement en train d'essayer de me prouver « T'inquiète, je gère. »
Je suis un homme.
Je suis un homme, etc. Que j'étais juste là « Bon, bah, écoute, do your thing. Je vais aller avec toi parce que visiblement, enfin, c'est ta première fois. Donc, je vais juste aller avec ce que tu désires parce que, voilà, on va... Je vais m'adapter parce que j'ai pas non plus envie que t'en aies un souvenir dramatique. Mais c'est vrai que par la suite, j'en ai parlé. Il était là, effectivement. J'avais déjà fait quelques petits trucs avec une fille avant. Mais voilà, c'est la première fois que je couche réellement avec une fille. J'étais là. Je trouve ça dommage parce que justement, s'il y a un tip que je peux te donner dans la sexualité, c'est justement de communiquer. Tu n'auras jamais de meilleure sexualité qu'avec quelqu'un avec qui tu exprimes tes sentiments, ton ressenti, ton stress, tes appréhensions. Donc, je lui ai dit vraiment pour la suite de ta vie sexuelle, je te souhaite juste de la communication et de la compréhension et enlève-toi toute cette pression. C'est vraiment de ce conseil que je lui ai donné parce que je n'ai même pas donné... Enfin, il attendait justement des retours sur la performance.
Oui.
Ouais.
Et je lui ai juste dit, c'est pas la chose sur laquelle tu dois te concentrer. C'est comment moi, je me suis sentie aussi parce que tu ne m'as pas prise en considération non plus dans ça.
Ouais.
Et c'est très important que tu discutes avec tes partenaires. Donc, voilà.
Non, mais c'est vrai que la première fois en termes sexuels entraîne parfois... Enfin, on en a parlé avant avec Mina, c'était... on est dans une phase... Enfin, ça arrive généralement dans une phase où on est un peu jeune. Parfois, on se cherche, etc. Et du coup, on communique très mal. Ou on communique voire pas du tout, en fait.
Ouais.
Et du coup, ouais, c'est plus, comme tu dis, dans ce truc plutôt de la performance pour montrer qu'on arrive à faire quelque chose plutôt que dans la réelle... communication qui, en plus de ça, peut peut-être améliorer la performance, si ce n'est pas la première fois, mais au suivant. Donc voilà.
Totalement. On en vient du coup à mon anecdote.
J'allais dire,
si, j'ai besoin de personne, je me sauce seule, il n'y a pas de... du coup, ma première fois, c'était justement, comment dire, une première ouverture émotionnelle, c'est-à-dire que j'ai toujours J'ai eu ma première rupture et par la suite, je sais que je me suis beaucoup fermée à mes partenaires dans le sens où on échangeait, on était potes, etc. Mais tout ce qui passait par le nez, enfin, tout ce que je pouvais ressentir de négatif ne leur était pas. Enfin, l'accès n'était pas ouvert. Donc finalement, ils étaient souvent en train de se dire je ne te sens pas forcément bien, je sais que c'est pas forcément moi. Mais et je fermais la porte, j'étais là, bon, c'est pas tes affaires en soi, genre on n'est pas ensemble. Enfin, je coupais la sexualité de la relation. Et justement, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai fréquenté pendant longtemps, qui au final m'a ouvert petit à petit ses portes. Et c'était vraiment une fois où j'étais vraiment mal. Et il a dit maintenant, arrête, tu parles-moi. Et en fait, c'est la première fois où j'ai pu discuter, m'ouvrir, et ça m'a fait vraiment le déclic. J'étais là, ah, c'est ça. Une relation. Je ne dis pas que je suis amoureuse, je ne dis pas que j'ai envie de faire ma vie avec toi, mais en fait, c'est ça, interagir entre êtres humains. Et c'est la première fois où je me suis ouverte. Et je m'en souviens très très bien, c'était très agréable et libérateur finalement de ne pas diviser, sectionner les sexualités et les relations entre êtres humains. Voilà.
Merci beaucoup pour ce
beau
partage.
Vraiment,
ouais,
trop belle anecdote.
Et donc, quand on parlait justement de première fois, on va continuer un peu sur la track. Qui choisir, du coup, pour faire ses premières fois? Comment est-ce qu'on choisit les personnes à qui on fait confiance, avec qui on n'a pas envie de partager notre sexualité, notre corps, nos émotions?
Le choix du partenaire, ouais, ça c'est assez compliqué. Alors, en tant que personne bi-pansexuelle, c'est encore plus compliqué. Parce que, bon, bien entendu, pour la première fois, tu te dirige dans quelque chose d'hétéronormé, donc tu vas surtout moi par exemple en tant que personne qui s'identifie comme homme, j'allais du coup d'abord vers les femmes, ce qui fait que du coup ma première fois était avec une femme et celle avec un homme du coup c'était quand j'avais 18 ans, donc c'était 2 ans après. Et du coup tu restes toujours dans cette difficulté de avec qui tu couches. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire, mais dans le sens, ça devient assez vite compliqué de, en tant que personne bisexuelle, tout le monde attend de toi un peu, si tu veux, ouais, des stats, quoi, on dirait presque, genre, oui, mais c'est quoi ton pourcentage? Donc,
ne faites pas ça.
C'est terrifiant.
j'avais jamais pensé à ça, en fait.
Ah non? Okay. Ouais, non, 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 moi, le nombre de personnes qui m'ont demandé, par exemple, c'est quoi tes pourcentages?
Ouais,
j'étais
aussi
là, mais ça, déjà, ça veut dire quoi, un pourcentage? Comment tu peux être 50% hétéro et 50% gay, par exemple? Ça veut dire quoi 50% hétéro, c'est genre... Donc, et puis du coup en fait c'est plus par rapport au nombre de rapports que tu as, et en fait t'es tout le temps un peu dans cette espèce de calculation, mais ça c'est parce que plutôt les gens arrêtent pas de te demander, et du coup c'est plutôt quoi tes préférences, c'est plutôt femme, homme, etc. Et puis toi t'es un peu là en mode les deux.
On se retrouve obligé de faire des estimations qui sont totalement pas nécessaires.
Et qui servent à rien en fait, parce que ça n'en déduit rien en fait.
C'est ça. Ni pour nous ni pour eux en soi.
C'est
ça change.
Nous ça nous met juste encore plus dans le flou, alors que déjà de base c'est assez flou. Et puis eux ça les avance pas plus que ça. Éventuellement du coup ils sauront que t'as plus de succès, je sais pas moi, avec les hommes qu'avec les femmes. Et puis tout d'un coup. Mais ça change rien à ta bisexualité, puisque du coup, tu as été attiré par les deux, tu es attiré par les deux, et tu seras attiré par les deux, probablement, tu vois.
C'est ça.
Du coup, voilà.
Mm-hmm. Oui, mais c'est clair, enfin, ouais, c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure aussi, c'est justement cette un peu pression de la performance dans la bisexualité, de genre performer des deux côtés, et genre simultanément presque, parce que si tu es à un instant T avec genre un mec avec un mec, du coup, tu vas être catégorisé genre gay, et puis t'es un mec avec une fille, et du coup, t'es catégorisé hétéro, et t'es là, non, mais en fait...
vous avez pas compris.
Oui, c'est ça. Clairement.
Ouais. J'avais une question pour toi, mais du coup, si c'est pas indiscret, bien sûr, t'as le droit de dire non, mais... ah merde, elle s'enfuit. Elle est partie.
Elle est partie.
Elle est partie, la question.
Une idée volante.
elle est partie. En fait, je dois me concentrer sur la technique aussi. Ça part.
C'était une élimination, en fait.
Ouais. Mais peut-être qu'elle reviendra après.
Pas de souci. Tu me la reposes à la fin, même si c'est hors contexte.
On laisse une question. On attend. Ouais. T'as le droit à un joker. Si tu hurles joker, on peut poser la question. On fait ça. Mais du coup, le fait de ne pas pouvoir choisir de pourcentage en soi, d'ailleurs, ne le faites pas, s'il vous plaît, ne demandez pas. Et ça nous avance pas forcément sur comment choisir une personne.
Non.
Parce que vu qu'on n'a pas de pourcentage, qu'est-ce qu'on fait?
Ah oui, la question est revenue.
Ah, Joker.
Ok.
Quand tu te catégorises pan, donc ça veut dire que tu vois, tu envisages une relation autant sentimentale que sexuelle avec
n'importe qui,
avec un être humain.
C'est ça.
Voilà. Ok.
Ça du moment que cette personne est majeure et consentante.
Ouais, bon. c'est bien de le rappeler, effectivement. Ouais. Enfin, majorité et consentement, c'est toujours, toujours important.
Ouais. Attention.
Tout à fait.
Oui,
donc, du coup,
la personne.
Comment choisir la personne? Est-ce que vous avez peut-être certaines pistes qui vous viennent à l'esprit?
Pour moi, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue l'épisode précédent, l'épisode précédent, ouais. Exactement, sur le flirt, qui, j'espère, devra être sur Spotify, j'espère. Jacopo, si tu nous entends.
Prie avec nous.
Il y a eu des petits problèmes techniques, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore disponible sur Spotify. Mais du coup, en fait, pour ma part, les personnes avec qui... les toutes premières fois, c'était l'exploration. Donc, et surtout en tant qu'homme, c'était un petit peu j'ai l'occasion, j'y vais.
Ouais.
C'est vrai que contextuellement, j'ai grandi dans un petit village de campagne, dans un canton de droite, voire d'extrême droite. Donc en fait.
On ne citera rien,
on ne citera personne. Mais ce qui fait que j'ai un passif très, très à droite. En fait, je suis né dans un milieu très à droite. Et en fait, avec toutes les valeurs patriarcales qui vont avec, c'est-à-dire autour de la sexualité également. Et quand on m'a proposé de coucher, go, départ. C'était un truc à se débarrasser. C'était un truc. Mais maintenant, je dirais les premières fois avec les personnes que j'envisage maintenant de la sexualité, je suis devenu extrêmement chiant, extrêmement exigeant. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas déconstruit un minimum la performativité autour de la sexualité, etc., c'est non. J'ai eu un date terrible avec une femme qui m'a dit « Moi, j'ai un problème avec les gros. » J'étais là
« Quoi ?»«
What ?»
Mission aboard.
Sur le body shaming.
J'ai oublié, j'ai un rendez-vous.
En plus, c'était au début du date. Donc, en fait, le truc, j'ai dû meubler pendant une heure. Parce que je suis trop poli, je sais pas, mais j'ai pas osé me lever, me casser, tu vois. Mais clairement...
pourtant, ça aurait dû lui faire un électrochoc et ça aurait peut-être été bénéfique.
Ça aurait peut-être dû, ouais. Mmh. Mais enfin, bref, des personnes qui disent ce genre de choses, non. C'est non, clairement non.
On est tous d'accord, je pense que c'est la grossophobie, en fait. Tout ce qui finit par phobe, c'est terminé.
Exactement. Le shaming, que ça soit aussi les king shaming, je sais pas, quelqu'un que tu dis que t'aimes bien les pieds et elle te répond que c'est dégueulasse, au revoir. C'est juste qu'il n'y a pas de jugement, tu dis juste que c'est pas ton truc, c'est ok, mais. On va pas dire que c'est
mais surtout d'entrée.
Ouais,
donc sans connaître la personne. Déjà, ça ne se dit pas. Hein, soyons clairs, mais genre, cette confiance dans le fait que la personne va forcément être d'accord, je trouve ça assez aberrant. Ça démontre quand même d'une certaine normalisation de ce genre de propos qui sont du coup sortis de façon totalement à l'aise à un inconnu. Ça me dépasse.
Je suis tout à fait d'accord. Et puis surtout dans le milieu du BDSM.
Ouais, complètement.
C'est assez complexe de comment t'abordes ce genre de questions. Et puis surtout la réaction que les autres en ont parfois. Rien que parfois à fréquence banane, je ne vais pas citer des noms. Il se reconnaîtra.
D'ailleurs, j'ai recommencé cet hiver des petits bouts de Desperate Housewives. Mm-hmm. Et je suis tombée sur la partie où le mari de l'une d'entre elles lui explique que du coup, il est frustré dans leur sexualité depuis des années parce qu'il a justement des envies plutôt BDSM, etc. Et elle le trash d'une façon tellement horrifiante. Elle lui dit que qu'il y a des pratiques de dégénérés et tout. Et en fait, la série, dans un certain sens, valide ses propos. Mmh. Et du coup, rend aussi normal de pouvoir juger ce genre de choses parce que l'actrice principale est là-dedans, donc on s'identifie à elle, on l'aime bien, elle est là toutes les saisons, donc forcément, on va valider ses actions. Et pourtant, c'est totalement dépassé. Bon, après, c'est une série qui date des années 2000, effectivement. Oui.
Mais les années 2000, c'est pas c'est, si loin c'est... que ça. Quoi.
Non, non, c'est...
Ah, bah non.
Non, c'est clair.
Non, puis même, il n'y a pas que du bon. Hein. C'est...
Non,
surtout du mauvais.
Ouais.
La tectonique.
mais même, il y a plein de personnes aussi qui vont juger des pratiques BDSM, alors que même dans une sexualité, on va dire, relativement normale, entre guillemets, entre très gros guillemets, assez soft, actuellement, il y a des petites pratiques BDSM, tu vois, genre ouais. des fessées, des trucs comme ça. Genre, c'est déjà... Ça rentre dans la classification BDSM, c'est juste que, voilà, t'as pas... T'es pas vraiment, genre, à fond hardcore, mais
et
t'es léger. C'est
même
et c'est
pire.
Déjà ça.
C'est même pire, parce qu'il y a pas ouais. forcément cette notion de consentement qui
exact.
Rentre la plupart du temps, tu vois. Enfin, c'est, je te fous une fessée ou je commence à t'étrangler, même si, effectivement, c'est pas aussi extrême, par exemple, que dans le BDSM. La personne n'a pas forcément donné son consentement dès le départ.
C'est ça.
Donc et c'est encore pire. Ouais.
C'est la fameuse, le fameux la destruction que Fifty Shades of Grey a fait à travers son passage dans le monde hétéro. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Genre, on discute. Je suis un homme avec des trucs, avec des comment il dit.
Avec des besoins.
Avec des besoins et des pratiques étranges. Et au final, il discute aucunement. Enfin, il lui fait signer un contrat, mais
c'est un contrat papier.
Exactement. Et puis c'est un contrat très hygiéniste.
Oui.
Le consentement, il est presque au second plan. C'est genre, elle doit s'épiler, elle doit prendre la pilule, elle doit pas prendre de poids en plus.
Ouais, oui.
Il y a des trucs comme ça, de ouf.
Code rouge, code jaune pour quand t'as tes règles, etc.
Exact.
Enfin, cela, mais oui, alors ça va avec le personnage aussi qui est très riche, etc. Donc il faut pas qu'il soit vu dans des trucs un peu particuliers. Mais en même temps, ça normalise ce genre
d'utilisation de la personne.
Enfin, de standard.
Ouais, c'est comme si elle était engagée, qu'elle était engagée par son patron pour des performances sexuelles, mais du coup, gratuite, en soi.
Ah ouais, c'est carrément un contrat de prostitution.
C'est un contrat de prostitution gratuite.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, non, clairement.
Ouais.
Très problématique.
On ne ferait pas une petite pause musicale pour vous faire digérer un petit peu cette nouvelle, si vous aimiez Fifty Shades of Grey, puis on peut le débunker en quelques minutes, pas de problème. J'en profite pour vous dire juste avant, on pourrait faire un épisode carrément dessus, exactement, excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
Non, c'est moi.
Mais, on va devoir se taper la trilogie.
Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez toujours interagir avec nous au 079 921 47 00. Je lirai vos messages, j'essaierai de lire vos messages et on essaiera de vous répondre. En attendant, prenez votre téléphone et écoutez Attic avec son titre La Meilleure. N'hésitez pas à prendre votre téléphone et à nous envoyer un message. À très vite.
Quel doux rêve d'avoir envie de se tailler avec l'élu ou les élus de notre cœur quelque part au soleil, loin de cet hiver glaçant. Donc on reprend l'émission sur le thème des premières fois et de ses tabous. On était parti justement sur comment choisir quelqu'un avec qui on avait envie de tester des premières fois en fait, peu importe lesquelles.
J'en profite pour dire que Jérémy a déjà qui a interagi avec nous via le numéro 079 921 47 00 qui vote. On va peut-être faire voter ça pour le débunkage de Fifty Shades of Grey et de la trilogie pour les prochains épisodes de La Banane Rose. Donc suivez-nous sur les réseaux et dites votre avis avec ce numéro. Et quand vous écrivez votre message, n'hésitez pas à dire votre nom ou un pseudo, c'est égal, mais qu'on puisse vous puissiez vous reconnaître quand on lit votre message à la radio.
Yes. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des auditeurs actifs. Donc, on espère que vous serez de plus en plus et que vous allez prendre vos habitudes aussi avec nous, comme on va les prendre avec vous. Et échanger avec vous, c'est aussi très important en soi parce que on peut répondre à des questions que vous vous posez, on peut même faire des recherches particulières si vous avez des questionnements, si vous avez aussi des peurs, des appréhensions. On peut essayer justement de chercher pour vous, d'en discuter, de regarder différents points de vue, comme si vous étiez autour de la table avec nous. Donc n'hésitez pas. Choisissez-nous comme personne de confiance.
C'est un safe space après tout.
C'est ça.
La Banane Rose est remboursée par la Lamal, si jamais.
On devrait faire une demande, ouais.
Franchement, on pourrait. Donc, on repart sur la discussion. Comment choisir une personne de confiance pour des premières fois ? Donc, Gabriel, tu nous as partagé ton envie d'avoir quelqu'un qui est quand même déconstruit.
Ouais, déconstruit, c'est un minimum.
Oui, c'est le...
C'est un minimum. Après, il y a tout un tas d'autres choses aussi. Mm-hmm. on va pas se mentir, le physique joue quand même. Mmh. Après, le charme de la personne, le contexte, les jeux aussi. Ça dépend aussi tout au long, au fil de ma vie, les envies que j'ai. Est-ce que j'ai envie plutôt de telle pratique ou d'une autre? Et du coup, on peut se rejoindre avec tel partenaire ou notre partenaire ou un autre partenaire. Et du coup, tout ça joue, hein, tout ça joue un rôle actif dans ces recherches. Ouais.
Mmh. Tout à fait. Ouais.
Alors, moi, c'était complètement une autre expérience. Donc, ma vie amoureuse a été assez chaotique de ce côté-là, mais en tout cas, ma vie sexuelle qui est déjà pas mal remplie. écoute, comment on rencontre les gens pour la première fois? Moi, je suis passé par la catégorie des magnifiques applis de rencontre. Scandale. C'est vrai que c'est le cliché standard de tu bases tout d'abord sur l'apparence. Si l'apparence te plaît, tu vas voir genre la bio des personnes. Et si la bio te tente, tu vas enclencher une conversation, si tu enclenches une conversation. Parce que du coup, ça arrive parfois d'avoir des matchs, du coup, par exemple sur Tinder, et vous parlez pas.
Qu'est-ce qui fait que... Moi, j'ai une question pour vous tous et toutes. C'est qu'est-ce qui vous fait swiper à gauche ou à droite un profil sur Tinder ou une autre application de rencontre? Est-ce qu'il y a un détail sur lequel vous restez... qui fera pencher la balance?
Quand je swipe... c'est vraiment à l'apparence de la personne. Après, c'est vrai qu'il y a des petits triggers qui me font plus vite swiper d'un côté que de l'autre. Par exemple, les tatouages. Je dois avouer que c'est une passion. Donc, dès que j'en vois, je suis là. Ah, puis voilà. Je sais même pas comment la personne s'appelle, mais voilà. Quoi. Je sais qu'elle a des tatouages et qu'elle est relativement attirante. Donc, let's go.
Moi, en vrai, je crois que ça a dépendu un peu de la période dans ma vie à laquelle j'utilisais l'application. Et en vrai, il y a eu une période dans ma vie où genre, mon but, c'était d'avoir le plus de matchs possible. C'est pas incroyable parce que de toute façon, je répondais pas aux messages. Parce que j'avais pas envie de les rencontrer, j'avais juste envie d'avoir des matchs.
Ouais, c'est ça, c'est pour
l'ego. Booster mon ego. Ça ne marche pas si jamais. Ça ne marche pas, faites autre chose.
Oh, tu sais.
Franchement, ça marche 30 secondes et après, de toute façon, t'en veux plus. Et de toute façon, t'es là, j'en ai toujours pas assez. Donc en vrai, voilà. Mais sincèrement, sur Tinder, en tout cas, genre pour les relations hétéro, il y a des red flags de photos un peu. Genre. Bon, évidemment, tu regardes majoritairement au physique, mais genre les selfies miroirs, par exemple, j'étais là, c'est non, c'est genre dead. Les photos où genre, il y a que lui et ses potes et tu sais pas lequel c'est, t'es là, écoute, enfin, ils sont beaux tes potes, mais genre, je sais pas qui tu es. Il y a plein de petits red flags. Genre là, c'est un peu les deux qui me viennent à l'esprit, mais en vrai, je trouve que le style vestimentaire, il joue beaucoup aussi. Mm-hmm. T'as des styles, des fois, ouais. T'es là, bon, toi, t'es un peu de droite, quand même. Voilà.
On va pas se mentir, le petit gilet par-dessus les épaules, on le voit, on le
swipe pas. Les photos en boîte avec une bouteille. Oui, alors merci, tu es gentil, mais enfin là...
Tu peux mettre en bleu, cherche des michetots.
c'est ça.
Non, c'est vrai que, vu de ce que tu dis, et vu aussi, du coup, maintenant, ce que j'en pense, c'est vrai qu'en fait, tu regardes ce que tu ne cherches pas, j'ai plus l'impression.
Plus.
C'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas que ce qu'on veut, effectivement.
Ouais.
En soi, quand on décode une photo, finalement, on arrive d'un point de vue plus ou moins neutre et on regarde juste qu'est-ce qui ne pourrait pas nous plaire, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on n'a pas envie de rencontrer cette personne. Donc on va juste chercher les détails qui conviennent pas. Je pense que comme toi, je fonctionne plus comme ça dans le sens où j'ai pas de style particulier de personne avec qui j'ai envie de relationner. Donc vraiment, tout le monde, à mes yeux, a quand même l'air un peu charmant ou qui apporte quelque chose, qui a un point de vue de la vie qui m'intéresse. Je ne sais pas si c'est vraiment des formations professionnelles de sciences sociales, mais tout le monde m'intéresse. Je veux savoir que tu sois garagiste, ingénieur, n'importe, ou esthéticienne, je m'en fous, je veux savoir quelle est ta vie. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve souvent avec à chercher des détails où tu dis « Ah ouais, non, en fait, ça, c'est une façon de penser qui ne me plaît pas, avec laquelle j'ai pas envie d'interagir. » Mais en soi, si la personne est neutre, qu'elle dégage quand même quelque chose de solaire... Moi, j'achète, c'est ça qui est triste. C'est qu'après, je me retrouve en étant une secrétaire Tinder où je me sens coupable de ne pas répondre. Et au final, tu ne sais plus quoi faire parce que tu ne peux pas te dédoubler. Donc, c'est vrai qu'en tant que femme, en tout cas, sur Tinder, j'ai l'impression qu'on se retrouve vite happée par une vague, finalement, de matchs. Donc oui, sur le coup, on trouve la personne attirante, charmante, qui a quelque chose. Mais finalement, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui ont ces qualités-là quand même, si on n'est pas très, si on n'a pas de style vraiment particulier.
Oui.
Et c'est très difficile ensuite, parce que je sais que j'ai reçu aussi des messages ou genre vraiment d'insultes quand je ne répondais pas.
Ouais, il y a des gens qui se vénèrent. Hein.
C'est
ouais.
ça, genre vraiment. Il y a un gars qui m'a écrit « Nique ta mère », mais genre « N » envoyé. « I » pour que ce soit écrit en vertical. Mm-hmm. Donc, il s'est vraiment fait chier à écrire ça pendant tout le long. Et du coup, c'était assez marrant de voir quand même la rage que ça procure, parce qu'il y a quand même une asymétrie hyper violente entre les hommes et les femmes. Oui. Entre femmes, ça va encore. Mais c'est vrai que dans mon Tinder, quand il s'agit d'hommes, c'est vrai qu'il y a une asymétrie assez forte. En tout cas, les retours que j'ai eus de la part aussi de mes amis qui s'identifient en tant qu'hommes sont assez durs. Ils ont du mal, et même d'envoyer le premier message, c'est aussi se creuser la tête, essayer de trouver quelque chose de sympa, de rebondir sur la bio, et finalement se retrouver face parfois à un mur ou à une personne qui répond froidement, comme si on l'abordait dans la rue sans consentement, alors que le match devrait représenter quand même une certaine forme d'accord.
Exact.
Donc comment faire pour que ce soit OK, ne pas matcher ou patcher peut-être avec très peu de personnes. C'est comme l'application Once, du coup, que je conseille, où on n'a qu'un seul match par jour qui a été sélectionné selon certains critères.
Mmh.
Et on a 24 heures pour discuter avec la personne si tout d'un coup on se sent.
Ça peut être pas mal, ouais.
Ça coupe un petit peu le côté consommateur de relations et de match. Mmh. Je pense que c'est...
Mais du coup, tu as le choix entre certains profils et dès que tu matches...
Il me semble que c'est l'application
qui
te pose plusieurs, enfin beaucoup de questions au départ et qui te dit, bon, peut-être que cette personne pourra te convenir, tu as 24 heures.
Mmh.
Ouais. J'ai un couple d'amis qui se sont rencontrés là-dessus, ils se sont mariés cette année.
Oh, wow. Qui sait ?
Allez sur Once.
Il y a aussi une autre application qui s'appelle OkCupid, je ne sais pas si vous la connaissez, du tout. C'est une application qui pose aussi un certain, enfin il y a un certain nombre de questions à répondre. On n'est pas obligé de répondre à aucune question, hein, mais ça aide à remplir le profil. Et en fait, ça met en avant les profils qui ont un certain nombre de matchs en accord, en correspondance avec le vôtre en fait. Si vous avez mis que vous êtes pour le droit LGBT, vous n'allez pas matcher avec des gens
de droite.
qui ne veulent pas de match de ce type-là. Ouais. Donc ça permet aussi de comment ?
D'homogénéiser les...
Ouais, Tinder, je crois qu'ils maintenant ils font la même chose, dans le sens que tu peux choisir plusieurs catégories que tu veux voir, plus ou moins.
Ah ouais?
Des petites... comment on appelle ça? Des petites pastilles, genre féministe, écolo, etc.
Ah oui, des intérêts, c'est pas la même chose.
Ouais, tu peux pas trier.
Non.
Sur Tinder, tu peux... Il y a des catégories, mais très vastes. Et...
Oui.
Et il y a un algorithme. Ah, par contre, il y a un algorithme qui fonctionne. Hein. On n'a pas tous les mêmes profils qui passent.
Ouais. Il fonctionne. J'ai quelques...
on a des dérives. Il y a des profils qui n'ont rien à voir et qui sont quand même là.
Oui,
mais dans le sens, quand même, sur la majorité des profils qui vont être présentés, il y a quand même... ça va être ciblé. Il y aura les profils qui ont plus de chances d'être un match, qui seront mis en premier, etc., qui vont vous être envoyés.
Exact. Après, il y a des profilages très, moi je trouve, qui me posent un peu problème. Par exemple, quand j'étais polymécanicien, quand j'ai ma formation d'avant, je ne rencontrais que des coiffeuses, que des assistantes pharmacie, etc. Et maintenant que j'ai mis université, je ne croise que des masters, bachelor, docteur, doctorant, doctorante. L'algorithme là pour ça, moi je le trouve pas foufou. Hein.
Ouais, il te sélectionne dans une certaine catégorie sociale, quoi.
Même s'il y a quelques travaux de sociologues qui étayent cette théorie que on peut parler des hétérogamies et
endogamies,
les sciences sociales se reconnaîtront. et du coup, mais on devrait pouvoir aussi, ça devrait être cool de pouvoir mélanger tout ça en fait,
Puis
de sortir de ces, même si on s'auto-filtre déjà nous, alors pas besoin d'une appli pour le faire.
Parce que là, on passe par un double filtrage en fait, par l'appli et par toi-même et par du coup aussi la personne en face.
C'est ça. Surtout qu'en plus, à partir du moment où tu te mets sur une application de rencontre, le but, c'est quand même justement de rencontrer des personnes que tu ne vas pas rencontrer dans ta vie de tous les jours.
Mm-hmm.
Si on est à l'université, on peut rencontrer des gens de l'université tous les jours. Donc finalement, peut-être aussi que... on y va aussi pour rencontrer des gens qui ne sont pas à l'université, qui font d'autres choses, d'autres études.
Je trouve ça très marrant.
Pas d'études, mais...
parce que, excuse-moi, c'est trop cool parce que genre, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, quand je parlais de Tinder, c'était vraiment un truc genre, oh, mais t'es sur Tinder, ou vraiment le fait que c'était choquant, genre t'es vraiment désespéré, ou tu vas sur Tinder et tout. Et maintenant, c'est quelque chose de normal. Enfin, on a tous, en tout cas, fait, tous et toutes, fait un tour dans les applications de rencontres. Et du coup, est-ce que vous vous souvenez de votre première impression sur les applis?
Moi, c'était par la vision de mes parents. D'accord. Du coup, c'est catastrophique. C'est okay. Nul, quoi. C'est vraiment...
T'es désespérée.
C'est, ouais, c'est ça. Et puis, c'est tellement superficiel. Et puis, c'est tellement... voilà. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que justement, je sais plus où, j'ai entendu un truc il y a pas longtemps qui remontait un petit peu dans, justement, genre, les applications de rencontres et un peu d'où ça vient, etc. Et au final, les applications de rencontres, avant... c'était pas sous le même format, mais il y avait déjà genre les petites annonces dans le journal, il y avait genre plein de trucs, et c'est, enfin, au final, genre les trucs comme ça de se rencontrer de manière entre guillemets artificielle et pas se rencontrer à une soirée ou se rencontrer chez un pote ou voilà, bah en fait c'est vieux comme le monde et on a toujours fait ça, et c'est juste que ça évolue avec comment la société elle évolue aussi. Et
c'est vrai qu'il y a aussi vous connaissez le speed dating?
Ouais, exactement. Oui. À l'époque, ça s'appelait des rallyes, mais il y a très longtemps, mais je pense il y a 100 ans en arrière. Hein.
Oui,
mais entre riches, ils en font encore, les rallyes. Hein.
Exactement.
Donc ça a toujours existé d'une certaine manière, c'est juste que là, bah, on a les moyens informatiques, on utilise l'informatique, c'est plus rapide, c'est plus pratique, etc. etc.
Mais... c'est plus discret aussi, plus ça demande moins d'investissement, de juste aller sur son téléphone, regarder un petit peu et tout, c'est de vraiment prendre son courage à deux mains, aller s'asseoir dans un restaurant, savoir que t'as plus 15 personnes qui vont passer devant toi et qui vont switcher. C'est quand même...
D'ailleurs, en parlant de discrétion, je sais que sur Tinder, tu peux sélectionner de ne pas voir certains contacts que tu as dans ton téléphone.
Ah ouais?
Ouais. Wow. Bah pour ne pas, par exemple, tomber sur des membres de la famille.
Tu vois? Je ne savais pas du tout.
Et ouais, bah, je sais parce que je l'ai sélectionné du coup. Donc voilà, bah, j'étais là en mode, bah non, je ne vais pas voir les personnes qui sont autour de moi parce que bah, déjà, de base, elles ne m'intéressent pas à ce niveau-là. En tout cas, pour ce que je recherchais, tu vois.
Oui, il y a un truc funky, c'est que c'est... Bon, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais je suis un peu plus âgé que la moyenne d'âge ici autour de la table. Mais ce qui fait que mes collègues d'école, je les retrouve maintenant, ces dernières années, parce qu'elles divorcent à 70%, 75%. Et je les retrouve, en fait, en match Tinder.
Coucou.
Et du coup, je vais peut-être mettre cette option.
C'est pratique. Hein.
Bah oui, c'est
pratique.
Mais moi, justement, sur Tinder, une fois, j'ai matché avec un mec qui était genre à l'école avec moi. Et en fait, j'ai matché juste pour genre lui parler, être en mode « Mais comment ça va, en fait ?» Genre, ça fait genre 7 ans qu'on s'est pas vus. C'est fou, qu'est-ce que tu deviens ? Et genre, j'étais vraiment pas forcément intéressée, mais j'étais là, on tente de matcher comme ça. Peut-être je discute avec cette personne parce que ça fait méga longtemps que je l'ai pas vue.
C'est vrai que des fois, Tinder est un peu des couleurs des copains d'avant. Genre, on retrouve des gens.
Le nouveau Facebook.
Et du coup, vous vous êtes vus?
Non, parce que bah, justement, il est en France. Et puis, comme moi, maintenant, je suis en Suisse, un peu compliqué. Mais on a pu discuter un peu, c'était cool.
Ouais. Bon, après, sur Tinder, moi, j'ai eu des petits trucs du style bah, la fille que t'étais amoureux à l'école et qui t'est mariée. Et tu dis, bon, t'as laissé tomber. Et tout à coup, paf, au détour d'un profil, tu la vois et tu dis, ah bon. Non, c'est pas possible. c'est pareil. Bon, bah, on essaye, on va voir. Et puis, bah, ça m'est arrivé de rencontrer une personne comme ça, de se revoir et de faire un date Tinder après 20 ans sans s'être vu. Et après chacun avoir ses histoires de couple et ses histoires de. C'est assez intéressant, ça, c'est drôle.
Ouais.
Mais je pense que c'est rassurant aussi, quelque part, d'arriver à un date Tinder avec une personne que tu connais déjà. Ouais. Et du coup, t'as potentiellement des sujets de conversation assez faciles, autres que la météo et ton métier ou tes études.
C'est vrai que ça peut rassembler, effectivement. Ça peut faire le petit truc de complicité. Qu'est-ce qui est devenu tel un tel? Faire un peu les gossips de l'école, les gossips du village où on vient, d'où on vient, etc. Oui, ça peut le faire, effectivement. Ouais.
C'est toujours crispy. En tout cas, si vous avez envie de partager avec nous vos expériences Tinder ou de Tinder ou de première fois Tinder, ou si vous n'y êtes jamais allé, pourquoi, comment on se sent quand on n'est pas sur Tinder, quand on n'y est jamais allé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message au 079 921 4700. 079 921 4700. Racontez-nous votre petite histoire crispy. Est-ce que vous avez déjà retrouvé quelqu'un?
En tout anonymat.
En tout anonymat, c'est promis. En plus, on n'a que vos numéros, donc c'est parfait.
Ouais, on voit même pas vos noms, en fait.
Ouais. Mais et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que les applications de rencontres avant c'était un peu genre en mode que quand t'es désespéré et tout et c'était méga jugeant, j'ai l'impression que genre sur ces 2-3 dernières années ça a méga changé parce qu'au final j'ai l'impression que toutes les personnes que je connais elles ont été à un moment ou un autre sur les applications de rencontres et c'est hyper démocratisé j'ai l'impression, surtout qu'il y en a de plus en plus de variétés d'applications de rencontres qui sont d'ailleurs de plus en plus bienveillantes, inclusives et tout. Et donc, j'ai l'impression que justement, enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on juge beaucoup moins quelqu'un quand, quand cette personne nous dit qu'elle est sur une application de rencontre. Mmh.
Totalement. Parce qu'on considère en société le célibat comme une salle d'attente. C'était une image que j'avais lue quelque part où on estime que les gens célibataires n'attendent que de retrouver quelqu'un. Et du coup, forcément, ça rajoute en fait un poids dans le flirt, dans aussi l'acceptation et la perception des célibataires en société, c'est qu'ils sont forcément à la recherche d'eux, donc déjà ce qui n'est pas vrai, donc chose à déconstruire, mais aussi ça les met en position d'attente et de demande. Donc forcément, c'est facilement jugeable de voir une personne qui s'est dit « Ah, mais toi, de toute façon, tu veux juste trouver quelqu'un. » C'est méchant en soi, parce que tout le monde cherche quelqu'un et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc il y a aussi cette vision du célibataire à déconstruire. Et si Tinder peut, enfin Tinder ou autre application peut aider à avancer, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte de ça, de passer au-dessus de ce jugement et de se dire « Bah oui, en fait, j'ai envie de rencontrer quelqu'un et je n'en ai pas honte. » Et c'est vraiment un step que les gens font de plus en plus parce que c'est vrai que c'était quand même assez jugé de chercher quelqu'un. Parce que bah là, maintenant, ça passe aussi par le côté drôle, enfin drôle, léger, dans le sens « Ah, mais je cherche juste un plan cul. » Mais en vrai, est-ce que nos petits cœurs ne cherchent pas aussi un partenaire finalement de vie ou des partenaires de vie? C'est vrai que c'est une question qui se pose dans ce sens-là.
Bah, je pense qu'on est aussi dans une passade où il y a des normes qui changent, enfin tout le temps, hein, mais là il y a autant les normes sur la sexualité, notamment chez les femmes aussi, qui évoluent, qui a tendance à prendre les femmes, à dire aux femmes que c'est ok de prendre sa sexualité en charge elle-même et pas dépendre des hommes pour ça, enfin qu'elles peuvent en bénéficier elles-mêmes.
Totalement.
Du coup, il y a aussi ce changement de paradigme qui fait que sur les applis, c'est plus légitime. On voit même des applis qui sont orientées féministes, où on laisse les femmes. Je sais pas si vous avez entendu parler de Bumble, par exemple.
Oui.
Voilà, qui laisse le premier mot aux femmes ou ce genre de choses. Adopte un mec qu'il y avait à l'époque. Bon, ça fait une très vieille application.
Mais je trouve quand même le concept problématique.
C'est un peu le 50 chefs degrés des applis de rencontre. Mais ils ont tenté quelque chose
dans cette idée-là.
Dans cette idée, mais
c'était plus idée à développer. C'est vrai que c'était un peu des précurseurs de l'idée, mais c'est vrai qu'il y a quelques aspects qui sont.
Tout n'était pas encore fait,
Effectivement. Est-ce qu'on se baladerait pas sur un arc-en-ciel ce soir avec... C'est-à-dire, je vous propose une pause musicale.
Bien sûr.
J'aime beaucoup les arcs-en-ciel.
Ouais.
Moi, j'étais là, qu'est-ce que tu me proposes? Les poneys du ciel, on y va.
Allez, go, on y va. Non, je vous propose d'écouter Polo et Pan et d'aller sur leur arc-en-ciel, justement, en fait.
J'adore.
Rebonjour, vous êtes bien sur la Banane Rose, cet espace safe et bienveillant dans lequel on peut parler de tout et sans tabou, avec des personnes incroyables et des incroyables partages d'expériences. On s'est un petit peu perdu dans nos premières fois, mais on va tenter de... Puisqu'en fait, on vous a fait voter sur Instagram pour une fois le sujet de ce soir. Donc en fait, on va essayer de respecter votre avis. On va essayer de respecter la démocratie du vote et donc on va revenir sur les premières fois et notamment les premières fois dans sentimentalités et sexualités différentes. Tu évoquais, Philippe, le BDSM.
C'est ça.
Et en fait, moi, je serais très curieux de savoir comment... Enfin, déjà, peut-être la démarche que tu as eue et puis peut-être les autres personnes aussi, si cette question vous touche, n'hésitez pas. Mais aussi, comment tu t'es dirigé gentiment ou je pense que ça doit être un processus.
C'est un processus.
Et peut-être ta première expérience là-dedans, dans quel cadre est-ce que ça s'est discuté longtemps, enfin avec une personne avec qui t'étais déjà en relation ou pas? Bref, j'ai plein de questions.
Vas-y, alors je vais essayer de faire un peu, raconter une petite anecdote là-dessus et puis ça devrait un peu tout englober quoi. Alors, comment j'ai déjà découvert le BDSM? Bon, évidemment, les gens en parlent autour de toi, mais plus en termes de moquerie. Et moi, je suis quelqu'un d'assez curieux, de base. Donc forcément, je vais sur Internet et je tape sur YouTube BDSM et tout. Et il y a une chaîne très intéressante qui pop-up presque dans les premiers. Ça s'appelle What's the Safe Word. Et du coup, c'est
très bien.
Très, très bien. Très bonne, je trouve, en tout cas. Du coup, c'est deux... un couple, sauf erreur, d'acteurs porno gays qui parlent, qui font du coup aussi du BDSM. Et qui débunk un peu toutes les histoires autour de la dominance, de la soumission, des pratiques. Ils abordent différents sujets, même des jouets, tout simplement, les objets que tu peux utiliser au quotidien, les notions de headspace, etc., etc. Donc, déjà, j'avais une bonne base parce que du coup ça m'avait intéressé et finalement j'étais beaucoup moins dans le jugement après ça que en parlant autour de moi. Après ça vient,
t'as fait ce que en fait on devrait tous faire avant de plaisanter sur un truc, c'est de s'informer, de savoir vraiment ce que c'est et de, et de prendre en considération
ça.
L'entièreté du monde. Ce que je recommande à tout le monde de faire avant de plaisanter sur des choses qu'on ne connaît pas.
Oui, voilà, je l'ai pas fait pour tout, hein. J'ai aussi mon lot de gaffes, mais pour le coup, ça c'était vraiment une bonne transition, j'estime. J'ai eu, de manière générale, avec le BDSM, étonnamment, j'ai eu énormément de très, enfin, de bonnes choses, des choses positives. Donc c'est cool. Après ça, vient le monde de t'as envie de trouver quelqu'un, t'as envie de sexe, etc. Et comme on disait avant, je suis allé sur des applications de rencontres. Et là, du coup, j'avais matché avec, cette fois-ci, c'était un gars qui était beaucoup plus âgé que moi, mais qui était aussi hyper dans la compréhension. Enfin, je pense, vu qu'il était déjà dans le milieu BDSM, il savait ce que c'était le consentement, il savait que forcément, il y avait des débutants, hein, tout le monde commence quelque part à un moment, etc. Et j'ai décidé de juste faire un date avec lui standard dans un café où on a discuté et tout. Et puis j'en ai profité, je lui ai demandé est-ce que ça dérange si tu poses des questions là-dessus parce que ça m'intrigue. Et il m'a dit ouais, pas de soucis et tout. Enfin, de toute manière, c'était dans ma bio marqué que je cherchais des personnes et tout. Et il faut savoir qu'il cherchait des personnes sub. Donc sub, c'est des personnes qui veulent se mettre en position de soumission, qui consentent à la soumission, etc. Donc ils se mettent dans ce headspace et tout. C'était assez compliqué pour moi à l'époque parce que du coup forcément j'avais tous les critères standards de oui mais je suis un homme, je ne peux pas me laisser soumettre, etc. Mais en discutant avec lui, il m'a quand même vachement, je dirais, mis en confiance. Et c'est ce qui fait que du coup j'ai essayé pour le coup. Alors par la suite les choses ont fait que finalement j'étais pas vraiment si sub que ça, j'étais plutôt switch et plutôt à tendance dominante.
Donc switch pour les auditeurs.
Ouais, c'est vrai. Switch, c'est en fait cette capacité à pouvoir alterner ou à pouvoir se mettre dans les deux rôles à la fois de dominance et de soumission. Ça dépend de avec qui tu es, ça dépend de ton headspace, est-ce que tu te sens plutôt aujourd'hui de léguer toute responsabilité à une personne, de consentir du coup à être soumis ou au contraire à le dominer, etc., etc. Donc voilà, j'avais commencé cette première expérience, c'était d'ailleurs chez lui et on a fait du très soft, juste un simple cordage.
Donc du shibari ou quelque chose
Non, pas du shibari quand même, parce que je savais même pas ce que c'était encore. Okay. Juste attacher les mains ensemble et avec les poignets.
Ouais, c'est déjà un petit truc de shibari.
Mais pour moi, ouais, c'est vrai que ça fait aussi pas mal shibari. Mais pour moi, j'ai tendance à imaginer le shibari comme quelque chose de plus artistique. Enfin,
la pratique en elle-même, on commence bien par quelque part. Donc, faut bien les chevilles, les poignets, c'est un peu par quoi on commence. Ouais.
Et puis le classique bandeau sur les yeux. Et puis ensuite, on a testé la gag ball. La gag ball, j'ai bien aimé. Enfin,
donc la gag ball aussi.
Ouais, effectivement, j'oublie à chaque fois de donner. Donc c'est une petite boule, souvent soit en métal, en plastique. Que vous mettez dans la bouche en fait et qui vous empêche techniquement de parler et du coup ça implique d'autres problèmes parce que généralement dans le BDSM on utilise des safe words pour tout ce qui est consentement etc. pour connaître les limites mais quand t'as quelque chose dans la bouche qui t'empêche de parler forcément tu peux pas vraiment le parler,
tu peux pas vraiment dire
voilà.
Après, je pense que ça se ressent aussi voilà. dans les yeux.
Généralement, tu trouves d'autres techniques, bandés, des gestes.
Ah ouais, non, c'est foutu. Ouais.
Merde.
Oui, c'est vrai.
Il y a plein de manières de faire différentes. Tu peux trouver des gestes, tu peux trouver des signes avec les mains. Bon, après, si t'as les mains attachées, c'est un autre problème. Mais voilà, tu trouves toujours une solution pour, voilà, quoi, pour faire en sorte que la personne puisse donner son consentement tout au long du chose et donner ses limites en fait parce que du coup je venais de découvrir ce que c'était et puis voilà. Alors on n'avait pas fait de impact play, c'est-à-dire tout ce qui est très fort au niveau sensation, c'est-à-dire par exemple avec des fouets, des martinets, tout ce genre d'objets parce que forcément j'étais assez débutant. On a fait je dirais surtout du bondage classique. Et puis légèrement, mais très légèrement, genre de la dégradation psychologique, je dirais. Enfin, comment on dirait ça,
Verbal.
Puis voilà, c'était un petit début. Et c'était franchement un très bon début. J'en garde un très bon souvenir. C'était une de mes premières fois, franchement, nickel chrome. Par la suite, par contre, j'ai pas revu cette personne parce qu'on avait des vies très différentes et tout. Puis voilà quoi, les choses ont fait que du coup maintenant on se parle pas spécialement quoi. Et puis ouais, voilà, je pense que ça conclut plus ou moins. Je sais pas si t'as d'autres questions.
Trop bien, merci. En fait, je vais plutôt me tourner vers Clara ou vers Mina pour savoir si elles ont des expériences de. Enfin, vous n'êtes pas obligé de nouveau de partager ce genre d'expérience, hein, même plus, parce que c'est bien sûr des choses peut-être intimes. Et du coup, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose sur ce sujet, que ça peut être du BDSM ou ça peut être autre chose?
Personnellement, j'ai pas vraiment d'expérience dans le BDSM. Je connais quelques concepts de BDSM un peu, genre justement avec les safe words sur le consentement et tout. Mais il y a un concept moi que j'adore dans le BDSM, c'est vraiment genre le débriefing après.
L'aftercare.
Ça, c'est pas mal.
Et ça, pour le coup, c'est une pratique que j'aime beaucoup, enfin, que je fais même dans mes relations sexuelles.
Vanilla.
Hors BDSM.
Ouais.
Et c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. Parce qu'en fait, c'est horrible. Enfin, c'est de genre, tu fais l'amour et après, juste. Chacun va de son côté et va qu'à ses occupations, genre un câlin s'il te plaît, enfin je sais pas, genre
hello.
Un bisou, dis-moi genre ouais c'était cool, enfin je sais pas, genre qu'on débriefe un peu quoi.
Ouais. Mm-hmm. Oui,
c'est vrai que l'aftercare même dans le monde vanilla peut être important effectivement, suivant, bien sûr.
Clairement, enfin surtout, enfin je pense que ça se construit encore plus pendant la relation, enfin plus on est proche de la personne, plus ça vient aussi genre ah ça c'était trop cool, etc. aussi ça. Mais c'est vrai qu'au tout début, il faut installer ce rythme aussi de discussion. Enfin, parce que c'est vrai que les gens ont peut-être des gestes tendres, mais pas forcément de paroles non plus. Donc essayer d'instaurer ça, c'est vrai que c'est assez chouette. C'est un concept à rattraper du BDSM.
Franchement, ouais.
Exact. Il y a plein de trucs du BDSM. Pour revenir sur le truc de Fifty Shades of Grey, qui sont appropriés que des trucs que le monde hétéro...
L'appropriation culturelle BDSM.
Ouais, c'est presque un peu ça. C'est en fait s'approprier des choses, que des petites choses qui nous arrangent. C'est genre le truc de l'hygiène chez la femme, machin, etc. Ça, c'est cool. Mais en fait, ils ont oublié tout le cadre autour qui se pose, les discussions, le consentement qui doit se gérer tout le temps, pas seulement avant, mais pendant, après, l'aftercare, enfin, tout ce truc. Et en fait.
En fait, ils ont pris vraiment. Maintenant quand je regarde ce genre de film et surtout avec ma cousine qui est une fan inconditionnelle de ça et moi je suis là à côté c'est pas trop ça, en fait ils prennent vraiment que ce qui est visible, c'est-à-dire vraiment la surface de la chose, c'est-à-dire les jouets, Christian Grey a une chiée de jouets, etc. Dans la réalité, ça ne te sert à rien d'avoir 12 000 martinets différents. Déjà, ça coûte cher.
Bon, je connais des dominas qui seraient contre. Ouais,
je sais.
Qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec toi.
Pourquoi ? Parce que c'était un film, genre, je sais pas, pas tout public, mais dans le sens destiné à quand même un certain nombre de personnes. Ouais. Pas tout le monde a les moyens de se permettre d'acheter 12 000 martinets, 14 fouets. Comment on appelle ça, la croix, là, j'ai oublié le
nom. La croix de Saint-André.
La croix de Saint-André, enfin. Enfin, tu vois quoi. Une paire de menottes, c'est déjà bien. Et puis, le petit bandeau, la gag ball, pourquoi pas. Je vous la conseille fortement.
Ouais, des jouets comme gag ball ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est très personnel. Mais par exemple, la Croix de Saint-André, il y a des clubs BDSM qui existent, notamment à Lausanne.
Oui, et location.
Que vous pouvez louer l'espace, effectivement, et prendre l'espace avec les partenaires, tout le monde et toutes. dans le consentement majeur, etc. Mmh. Toujours. Mais il y a aussi, vous pouvez, il y a des soirées qui sont tout, enfin, ouvertes, publiques, ouais. comme un bar, et il y a des espaces de jeu où vous pouvez aller avec Croix de Saint-André, des cages, des pièces fermées, des pièces ouvertes, suivant vos envies, et tout est possible et tout est faisable.
Ouais, je suis d'accord.
C'est vrai que j'ai peut-être des contacts qui ont justement qui sont les propriétaires d'un donjon sur Lausanne, donc peut-être que je peux essayer de les inviter. Ils avaient l'air
trop bien.
D'accord, de peut-être.
Ouais, j'en connais une aussi très sympathique.
Donc pourquoi pas, en vrai, ce serait une très très chouette discussion.
Ça serait une très bonne idée. Mm-hmm. Moi, je connais justement deux, mais j'avais l'idée peut-être à faire voter à nos éditeurs auditrices. Mm-hmm. Je connais un club à Lausanne qui serait, je pense, ok de nous faire visiter.
Génial.
Radiophoniquement, peut-être, on pourrait aller à 3 ou 4, et des personnes qui n'ont jamais été potentiellement, et dire nos impressions, comment on trouve le lieu, le décrire, et quitte à aussi faire des mini-interviews des propriétaires, je pense qu'ils seraient ok contre un peu, enfin, ça ferait de la pub en fait,
totalement.
En contrepartie, mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire vos avis sur notre Insta de Fréquence Banane.
Et le faire savoir.
Et le faire savoir. Du coup, Clara, est-ce que tu avais une première fois un peu...
J'ai eu un semblant de première fois, mais c'est vrai que justement, j'ai l'impression que c'est sans les bases. Sans justement toute cette culture et ces codes aussi qui sont propres à ça. C'était un garçon que j'avais rencontré sur Tinder aussi, on se voyait depuis quelques temps. Et puis justement, il n'avait jamais vraiment testé. Il s'est dit, est-ce que ça te dirait et tout. Donc j'étais écoute, pourquoi pas. Et en fait, je me suis retrouvée... Enfin, il m'a envoyé la commande qu'il a passée. Et du coup, en fait, il en avait pour 300 balles de matos. Et j'étais là, bon, ok, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, j'étais un peu là. Bien, j'ai quand même précisé que je ne voulais pas forcément des choses qui soient relatives à la douleur. Je préférais quand même quelque chose qui était d'ordre psychologique. Ouais. Après, du coup, quand le jour dit est arrivé, il arrive avec son gros sac et tout. J'étais là, bon, ok, qu'est-ce qui va se passer? Donc, déjà, il y a eu le moment, en fait, de préparation. Et enfin, c'était assez drôle parce qu'on savait pas trop ce qu'on faisait les deux. Et genre, j'ai fait beaucoup de cheval et j'avais l'impression de me faire harnacher littéralement comme un cheval. Et du coup, j'étais là, bon, ok. Et je perdais gentiment, du coup, toutes les mobilités, etc. J'étais là, bon, ok, c'est cool. Et en fait, pendant, il jouait beaucoup sur la frustration de venir, de suite se retirer, etc. Mais pas forcément en moi, mais juste même dans la conversation, juste de me parler de loin. Et du coup, exactement. Okay. Mais j'ai eu du... Enfin, quand j'avais le bandeau, j'étais encore un peu dedans. Genre, j'imaginais, je suis très auditive, donc c'était ok, etc. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai vu... J'avais du mal à me mettre dans le contexte, en fait. J'avais du mal à rentrer dans ça. Je sais pas si c'était... en fait, il a directement pris un rôle. Et du coup, ça ne lui ressemblait pas forcément. Mais c'est peut-être aussi le concept. Je ne savais pas sur le coup quoi faire et comment agir. Parce qu'il a vraiment... on n'avait plus vraiment d'interaction. Il était dans son truc et j'étais en train de... Bon, ok. Donc, j'ai passé ce moment. Enfin, c'était hyper drôle. Enfin... Après, on en a discuté, tout, c'est très chouette. Je lui ai dit aussi comment je m'étais sentie. Enfin, c'était pas. C'est pas qu'il a fait son truc et il est reparti, mais c'est vrai que c'était très overflex, dans le sens où il y avait beaucoup de matériel pour peu de connaissances, je pense, par rapport à tous les codes, à tout ce qui aurait pu rendre la chose plus agréable et plus naturelle.
Ouais. Donc, ok. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était vraiment très, très chouette. Et du coup, est-ce que après cette expérience, tu as prolongé cette découverte ou pas du tout?
Alors non, j'en ai pas eu l'occasion, mais c'est quelque chose que pourquoi pas, je vais peut-être réitérer l'expérience, mais du coup avec des partenaires aussi avec lesquels je me sens plus à l'aise, avec aussi beaucoup plus de recherches en amont, justement comme tu as pu le faire, regarder des chaînes YouTube, regarder comment ça fonctionne. Enfin, je sais que j'ai l'impression d'avoir été un peu lâchée dans le truc sans filet, en fait. Mm-hmm. Et je trouve ça dommage, alors que ça aurait pu être très différent.
C'est vrai que moi, je suis passé par la catégorie standard parce que tout le monde parle de BDSM, mais la plupart des personnes ne savent même pas ce que c'est les quatre lettres du BDSM. Mm-hmm. Genre, parfois, je parle avec ma sœur et puis, mais quoi, BDSM? Bon, déjà, je parle de ça avec ma sœur, c'est compliqué.
Oui, ta cousine tout à l'heure aussi.
Ouais, ma cousine, ça, c'est encore autre chose, mais elle est déjà plus acceptante. Elle comprend pas le délire, mais elle est là, ok, vas-y, fais ce que tu veux, frère. Alors que ma sœur, elle est encore un peu, je dirais, tradie. Mm. Et du coup, je lui en parle, mais je lui Ça, je lui laisse des petits hints. Je lui dis pas en mode, hey, si jamais je pratique. Tu vois, je fais plein de choses et tout.
Un peu comme beaucoup de personnes qui sont dans un placard quelconque. Ouais. Il lui laisse des petites pierres, tel le petit pousset.
C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu comme si je me retrouvais dans le placard, mais en même temps, c'est pas la même sensation que si t'es dans le placard.
Ouais, c'est pas la même chose. Hein. Ouais.
Voilà.
Ouais, ça, ça,
c'est si les gens viennent à l'apprendre, bon, ils seront un peu scandalisés. C'est pas grave. Hein, je risque pas, je pense, d'avoir des menaces. Il me semble. Hein, je sais pas si des personnes ont d'autres expériences là-dessus, mais en tout cas, moi, je m'attendais pas à ce genre de réaction. Hyper violente, enfin hyper agressive. Alors qu'avec la sexualité, c'est encore autre chose. On peut, suivant la famille dont on vient, et je sais de quoi je parle parce que je viens d'une famille très catholique, très un peu campagnarde du Portugal, etc. C'est compliqué.
Bah, c'est vrai qu'il y a peut-être des sujets en famille, enfin, ça dépend aussi de l'ouverture d'esprit de la famille, etc. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est aussi un débat, savoir jusqu'où est-ce qu'on peut discuter avec sa famille de nos pratiques sexuelles, de nos partenaires, etc. C'est vrai que c'est pas toujours évident, enfin, il n'y a pas forcément justement de ces faits, parce qu'on est au même temps le bébé. Et comment dire, on reste comme des enfants à leurs yeux. Oui. Du coup, c'est difficile de sexualiser un enfant, même en tant qu'adulte. Ouais. C'est des discussions qui ne sont pas forcément évidentes.
Non, effectivement.
Tu voulais dire quelque chose, Gabriel ?
Oui, j'ai un message d'une auditrice.
Génial.
Oui, vous avez marqué, je dis auditrice, parce que voilà, c'est pour non-genré, inclusive. Qui dit le texte suivant, j'aurais une question concernant la première fois BDSM. Mm-hmm. Perso, j'ai eu une approche très curieuse à me dire, tiens, c'est marrant cette sensation. Mais autrement, je trouve que la première fois, c'est tellement la découverte que c'est difficile de ressentir un plaisir, une excitation. Et ça me convient bien et c'était une super expérience. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est vrai que la première fois, je trouve qu'elle est très overwhelming. Genre, il y a beaucoup de choses qui se passent, généralement, comme dans ton cas, Clara. Dans le sens, moi encore, j'avais fait une petite recherche pendant et j'étais toujours surpris. Et c'est vrai que, je vais pas vous mentir, j'ai pas non plus pris... Enfin, c'est pas comme si j'avais eu un monstre orgasme ou des choses comme ça à ce moment-là. Mais pour autant, j'en garde pas un mauvais souvenir dans le sens où, par la suite, ça m'a encore plus donné du coup envie de me renseigner parce que du coup, les sensations que moi j'avais ressenties, elles étaient hyper perturbantes d'une certaine manière. Donc oui, c'est logique que la première fois, surtout dans le BDSM qui a tendance à être assez brusque, on va pas se mentir, ça peut être assez... ça donne vraiment beaucoup de sensations dans tous les sens, ouais.
Le BDSM, c'est pas tout. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est pas tout le temps brusque. Il y a tout un pan sensualiste qui peut être très, très agréable avec du wax play, donc du jeu avec de la cire, les yeux bandés. Il y a tout un pan aussi avec des huiles de massage ou ce qui s'appelle du nourou, par exemple, de l'huile nourou, des genres de choses.
Ouais.
L'huile nourou, c'est une huile un peu visqueuse, on va dire.
Ouais.
On la voit très présente dans des hentai ou des choses japonaises, parce que c'est une huile japonaise à la base. Ouais. Mais pour revenir à la question de cette auditrice, oui, la première fois, en tout cas pour ma part, ça a été très sur quoi je dois me focus en fait. Il y a beaucoup de choses, la position, la position de vulnérabilité, vulnérabilité dans laquelle on se met, merci. Et au-delà de ça, les nouvelles sensations, la pudeur quand même aussi, la gêne. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mélangent. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps, mais c'était très agréable en l'occurrence. Moi je me suis, c'était vraiment un truc, une expérience de un peu subspace. Du style, moi je confonds, pour en parler un peu plus, j'ai fait du jeu d'impact, donc j'ai reçu du flogger, donc comment on appelle ça en français, du martinet, mais c'est un espèce de fouet à franges.
Mm. Ouais.
Okay. Bref.
Et, j'ai l'image.
Ouais, vous avez l'image. Okay.
On voit.
Il y a différents niveaux de flogger qui sont plus ou moins douloureux, etc. Mais en l'occurrence, là c'était un très doux. Enfin, on a commencé par un très doux. Et du coup, ça m'a beaucoup fait penser à la douleur pour ceux et celles qui sont tatoués. Mm-hmm. Ça m'a fait beaucoup penser au subspace qu'on a dans les tatouages.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être de ça. Et par... quel est le mot que j'avais utilisé avant ? Impactant ?
C'est un mot tout à fait approprié.
Enfin, le mot que j'avais utilisé avant, dans le sens... l'utilisais dans le sens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sensations et ça peut être assez... Ah voilà, je crois que j'avais dit brusque. Et le brusque, c'était plutôt dans le sens qu'il y a beaucoup. Il se passe beaucoup de choses, surtout beaucoup de choses nouvelles pour une première fois, du coup. Même par la suite, d'ailleurs. Mais il y a beaucoup et ça peut brusquer certains, je dirais. D'une certaine manière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Tu voudrais ajouter quelque chose, Clara ?
J'entends, enfin moi je sais que c'était un peu différent du coup, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'informations, même dans mon expérience qui du coup était effectivement, qui allait dans ce sens-là et qui n'était pas forcément graduelle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, que ce soit la position, le matériel, la personne aussi qui prend, comment dire, des attitudes qui sont différentes de ce qu'on fait d'habitude, enfin il y a tout un panel de choses auxquelles s'habituer, du coup je pense que comme dans toutes les premières fois, tout s'arrange avec le temps et la réitération et la découverte et la prise de confiance. Dans tous les cas, je pense que on peut s'accorder en tout cas sur quelque chose sur les premières fois ce soir, c'est qu'en soi, les premières fois, elles peuvent être incroyables, mais il y a toujours une marge de progression, j'ai l'impression, dans chacune de ces expériences qui sont quand même assez significatives.
Ouais. Et je pense que pareil, dans toutes les premières fois, il y a aussi toujours beaucoup d'informations. Enfin, même la première fois sexuelle, tout est nouveau, quoi, finalement. Et c'est aussi découvrir son corps d'une autre manière. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'on n'a jamais vécu son corps de cette manière-là quand on le fait pour la première fois. Ouais. Et même, c'est partager de l'intimité avec quelqu'un. Enfin, je sais pas, mais je trouve que, en tout cas, ici en Europe, on a beaucoup une culture de la pudeur quand même. Enfin, je veux dire, les corps, c'est voilà.
Dépend où en Europe, encore.
Voilà.
Quand on fait des saunas en Allemagne ou on fait des saunas ici en Suisse, c'est pas la même ambiance.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression, je sais pas, France-Suisse, en tout cas, j'ai l'impression que les gens sont très pudiques. Enfin, ouais, je sais pas.
Ça dépend où tu vas.
Ouais, c'est ça.
Oui, non, mais bien sûr, évidemment, il y a des gens, c'est évidemment des naturistes, etc. Et donc, il n'y a pas du tout le même rapport au corps. Mais disons, globalement, j'ai l'impression que la majorité des gens sont assez pudiques. Et je pense que la première fois, déjà, que tu te mets nu devant quelqu'un, je trouve que déjà là, c'est assez stressant. Enfin, moi, je sais que au début, vraiment, j'étais rassurée quand il n'y avait pas la lumière, qu'on était dans le noir et j'étais là. Ok, ça va. Je suis nue, mais on ne voit pas, donc ce n'est pas grave. Voilà.
Ouais, je me suis fait la même réflexion parce que cette première fois BDSM, je l'ai fait dans un club et c'est des clubs qui sont lumière tamisée. Ouais. Et je me suis dit ça aussi. Je me suis dit, bon, lumière tamisée, c'est bon, c'est ok, ça va, on ne voit pas toutes les imperfections du
club. Ça floute.
Ça floute un peu, ouais, effectivement.
Ça floute.
Est-ce qu'on ne ferait pas une autre pause musicale ?
Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Je vous propose... Qu'est-ce que je vous propose ? On va écouter peut-être Bébé avec son titre Malo. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a été reprise.
Bébé, la chanteuse espagnole.
Exact.
Oh, ma vie.
J'adore.
Donc, je vous laisse avec cette chanson.
On t'a laissé du coup, Mina, sur les premières fois de découverte. Enfin, j'ai beaucoup aimé la formulation que tu as dit. On n'a jamais vécu son corps de cette façon.
Ouais.
Est-ce que tu peux développer cette idée ? Parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant et très, très imagé, en fait.
Ouais, je sais pas. Enfin, je sais pas comment vous avez vécu votre première fois, mais... Enfin, ouais, c'est sûr que... Je sais pas, parce que des fois, on peut voir un peu le corps comme ayant plusieurs fonctions. Genre la fonction de, je sais pas, de se nourrir, de bouger, de... Voilà. Et là, c'est vraiment genre la sexualité, c'est un peu une nouvelle fonction qu'on acquiert au moment de notre première fois. Et je sais pas, enfin c'est très... Après ça dépend du ou de la partenaire avec qui on est, parce que des fois il y en a qui arrivent vraiment à nous mettre en confiance et du coup on va pas trop se poser de questions. Mais je sais que dans mes premières expériences, genre premières années de découverte de ma sexualité, j'étais souvent très mal à l'aise avec mon corps, je savais pas trop quoi en faire, où me mettre, comment agir... Même juste, j'étais stressée qu'il ou elle voit des défauts, par exemple, que je me trouve ou des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on en parle peu, finalement, dans la sexualité, de comment on vit notre corps. Mmh. Et je trouve que ça influence beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, ça a influencé beaucoup. Est-ce que j'arrivais à lâcher prise ou pas ? Pour le coup, pas du tout au début. Mais je trouve que ça a un énorme rôle, en fait, comment on voit son corps et comment on a l'impression que l'autre voit son corps et... comme ça. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais...
Moi, je sais que c'est beaucoup passé par me connaître d'abord, sans partenaire. Mm-hmm. Donc, toutes ces premières fois aussi de masturbation, de découverte de soi et tout pour pouvoir guider la personne par la suite. Mais c'est vrai que même ces fois-là, elles sont... Enfin, je sais que, y a eu beaucoup... Enfin, on dit souvent, les hommes, ils ont leur pénis devant, du coup, forcément, ils vont commencer à jouer avec et tout. Mais pour les femmes, c'est vraiment une exploration un peu timide. Des fois, j'ai l'impression que je me suis découverte un peu... doucement, petit à petit, parce que on ne voit pas vraiment, à part de se masturber avec un miroir, mais du coup, c'est quand même toute une installation à faire. Mm-hmm. Mais du coup, genre, se découvrir et tout en tant que femme, ça prend du temps. Et je trouve que c'est encore plus difficile ensuite de le partager avec quelqu'un d'autre, parce que la découverte se fait, en tout cas, pour moi, c'est passé en très long laps de temps. Mm-hmm. Et du coup, pour le partager ensuite avec quelqu'un, c'était plus difficile.
Ouais. Mais je sais pas, moi, pour le coup, l'exploration personnelle, j'ai eu beaucoup de mal à la faire parce que moi, j'ai l'impression que j'avais vraiment cette influence sociétale de, en fait, pour une femme, c'est mal de se masturber. Ouais. Et même toute seule, par exemple, j'étais incapable de lâcher prise. Et genre, dès que je sentais que le plaisir y montait, par exemple, j'allais m'arrêter. Et genre, j'ai pas eu d'orgasme pendant des années parce que j'étais incapable de lâcher prise. Ça me faisait trop peur. Et même, genre, typiquement, l'exploration de son corps à soi et de son anatomie et de sa vulve et tout, je l'ai découvert, genre, méga tard aussi. J'ai jamais eu l'idée de prendre un miroir et de regarder. Et au final, en vrai, genre, faut tellement faire ça. C'est ouf. Enfin, j'avais l'impression de découvrir une partie de mon corps. J'étais là, mais je ne t'ai jamais vue.
Coucou.
Mais waouh. Enfin, ouais.
C'est vrai qu'on laisse planer une espèce de mystère sur justement. Ce qui est vulve, etc. Genre chez les femmes, on a souvent des approches très métaphoriques, la fine fleur, souvent des mains qui cachent, etc. Du coup, on n'a pas forcément... Ou alors, justement, si on regarde un porno, on se retrouve un truc hyper frontal, il y a aussi des opérations qui se font pour couper les lèvres aussi chez certaines actrices. Donc au final, et ce ne sera jamais la nôtre. Mm-hmm. Parce qu'il y a une variété chacune sa vulve, et du coup, genre, de savoir à quoi ressemble la nôtre, c'est hyper important, mais c'est pas quelque chose vers lequel on va nous pousser. Au contraire, on va juste dire, les regarde pas trop, touche pas, c'est mieux pas. Ou même, je me souviens de réactions adolescentes en disant, les gars qui disaient, je me branle et tout, et une fille qui dit, moi aussi, quoi? C'est dégueulasse. Et du coup, genre, les réactions, je ne fais pas ça et tout. Et du coup, je pense que ça entrave aussi notre découverte de nous-mêmes. Ça pose aussi problème par la suite avec des partenaires. Donc, c'est vraiment quelque chose à déconstruire dès le plus jeune âge, je pense, pour les prochaines générations, en tout cas.
Ouais, mais c'est comme le fait de regarder du porno. Chez les meufs aussi, c'est hyper jugé.
Ouais.
Alors que, chez les mecs, c'est ultra normalisé.
Limite, ils s'en passent entre eux, quoi.
Ouais. Mais, Mais même, il y a des mecs qui racontent que leur première fois à regarder du porno, ils étaient genre 5, 10, c'était la cassette du père. Enfin, genre, c'était quand même... Et pourtant, c'est les premiers à nous juger quand nous, on en regarde, du coup.
C'est ça. C'est vrai qu'on a une découverte beaucoup plus solitaire de tout ce monde-là.
Oui. Il y a des ateliers qui existent pour les femmes, si jamais, pour faire des découvertes de son propre corps.
Et aussi, il y a des gynécos qui sont vraiment très bien et qui parfois proposent justement de prendre un miroir, de regarder sa vulve et tout. Et franchement, big up à ces personnes-là.
Ouais, c'est vrai que ça doit être assez compliqué d'être... pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. C'est vrai que ça doit être assez compliqué, je pense, quand on vous dit à chaque fois de ne pas regarder de porno, de ne pas se masturber, etc. Après, vous avez le choc en mode... Oh mon dieu, j'ai une vulve, j'ai un vagin, il faut que j'en fasse quelque chose, etc. Et puis surtout que, après, vous devez faire votre première fois, etc. Enfin, vous devez. Non, que la première fois arrive et tout, et puis ça devient assez vite compliqué. Alors que nous, les gars, j'ai plus l'impression que. C'est presque admis qu'on va se masturber tôt ou tard, et genre relativement tôt en plus.
C'est même sous-entendu. En fait.
C'est ça, genre. Moi, je me souviens. C'est assez horrible, mais je me souviens toujours de... tu sais, quand les parents rentrent la première fois dans la chambre et qu'ils te surprennent, bizarrement, dès qu'ils ont ouvert la porte et qu'ils te voient et tout, je sais pas si t'as remarqué quelque chose de différent, peut-être, mais après, ils toquent. Ou alors, ils font plus attention.
Il y a un switch qui se fait.
Ils se sont dit, tiens, mon fils a commencé sa sexualité. Maintenant, il faut que je fasse attention quand je rentre dans sa chambre parce que c'est plus un petit garçon, c'est devenu un homme. Il joue avec son pénis, etc.
Ceci dit, même avant, chers parents, toquez.
Ouais, ouais, c'est ça. Dans tous
à
les
tout
cas,
moment, quel que soit l'âge de votre enfant. Voilà.
Mais c'est ça, mais même l'insulte en soi, branleur, est beaucoup plus utilisée pour les mecs. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est quelque chose de ça. Mais ce que je trouve aussi triste en soi, c'est que, par extension, ne pas connaître son anatomie veut dire aussi un déni du désir de la femme.
Oui. Ouais.
Donc on se retrouve aussi, bah, comme on disait dans l'émission précédente, dans la position de proie-chasseur, mais parce qu'aussi on renie totalement le fait qu'on puisse avoir du désir et que du coup c'est vraiment un travail de convaincre la femme de vouloir avoir un acte sexuel, de partager des moments, ce qui est aussi du coup une extension de ce problème. Enfin, tout ça, il y a une cascade de conséquences qui en découle qui est quand même aberrante et super... violente finalement, parce qu'on doit se laisser convaincre et, comme on le disait aussi, faire le premier pas, ça devient, enfin, on se fait aussi slut-shamer, donc c'est vraiment, j'ai l'impression que tout part de là.
Beaucoup de choses partent, mais en fait, il y a, moi je trouve que beaucoup de questionnements là autour, Simone de Beauvoir là, a beaucoup, beaucoup est bien traité dans son deuxième sexe, justement, dans le livre du deuxième sexe, où elle parle justement que les femmes font, elles se définissent à travers le regard d'un homme et à travers le regard des hommes plutôt en l'occurrence, c'est si une femme elle dévie des carcans que l'homme lui a adressés, ça part sur du shaming de quelconque
nature.
Du slut shaming, etc. De quelconque nature. Et à contrario, en tant qu'homme, on se définit, on se transcende un peu nous-mêmes quand même, tout seul. C'est-à-dire que notre sexualité est assez vite prise en main par nous-mêmes.
Oui.
Et en fait, c'est vrai qu'une des premières fois, quand j'ai avec des partenaires, c'est vrai que des fois, j'ai pas beaucoup complexé, mais quand même un petit peu par rapport, mais à moindre mesure. Comparé à ce que j'en parle maintenant avec mes partenaires féminines, dans le sens où je remarque que quand je pose la question, en fait, souvent dans des dates, etc., je parle de tout autour du consentement, qu'est-ce que tu aimes comme pratique, etc. Et on en vient souvent à la question de qu'est-ce que tu aimes comme tenue. Enfin, elle me pose la question souvent, mes partenaires me posent souvent la question, qu'est-ce que tu aimes les petites tenues, genre dentelle, machin, etc. Ou ce genre de tenue un peu sexy. Ce qui se passe, c'est que je dis, oui, naturellement, en tant que socialisé homme, bien sûr, ça m'émoustille. Et en fait, je retourne la question. Et toi, est-ce que quelque chose, c'est un mec Et j'ai à 90% des cas un slip propre.
Super.
La barre est basse.
Ouais, et en fait, je me dis, mais en fait, l'approche du corps chez l'homme et la femme, elle est incroyablement différente. Ouais. Et c'est là, en fait, c'est là que je retrouve un petit peu les mots de Beauvoir en disant que là, en tant que, on ne cherche pas, et même les femmes, elles cherchent pas à faire transcender l'homme de par leur regard, tu vois.
Totalement.
Et même les hommes eux-mêmes, en fait, ils sont très bien. Ils s'auto-transcendent d'eux, puis ça va, c'est très bien, c'est top, pas besoin de se poser des questions.
Ça tout seul.
Ouais. Et en fait, même chose pour, par exemple, il y a une grande question autour de la pilosité intime chez les femmes et les hommes. Exactement. Et souvent, elles me disent, qu'est-ce que tu préfères, épiler, papiler, machin. Et je retourne la question, et j'ai eu des réponses du style, j'ai jamais fait gaffe.
Ouais.
Du style, j'ai jamais fait attention.
Mais justement sur le thème des premières fois aussi, moi je me souviens que dans les premières fois ça me stressait énormément cette question de pilosité, donc j'étais vraiment entre le bon, ok, dans les pornos elles ont pas de poils, dans la vraie vie j'en ai une tonne, qu'est-ce que je fais, et donc je me souviens que je me suis vraiment rasée pendant hyper longtemps et du coup genre j'étais dans ce côté genre petite, c'est vrai qu'il y avait un côté régressif dans ça qui était hyper problématique. Du coup, c'est vrai que ça me stressait beaucoup. Et même la préparation de ça, genre il ou elle va venir ce soir, je dois être complètement épilée, parfaite, pimpée, sentir bon la chambre rangée. Donc il y avait une espèce de préparation à ça et il fallait que je sois parfaite au moment de l'arrivée de la personne ou du moment de se dénuder. Et au final, ça donnait quelque chose de tellement... Enfin, il y avait tellement de pression derrière tout ça, tellement de préparation que j'avais même du mal à me détendre par la suite. Alors qu'effectivement, quand c'était des hommes, c'était vraiment les pieds sous la table. « Salut, machin, cool. Ouais. »« C'est cool chez toi. » T'es là, ouais, j'ai tout nettoyé. Tu ne te rends pas compte de ce que j'ai fait.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'il y a un côté très... corporé par rapport aux hommes, dans le sens où on va anticiper toutes leurs envies et leurs besoins pour être sûr qu'ils aient rien à redire, de peur en fait qu'un commentaire puisse fuser sans raison. Donc, si vous avez la flemme, laissez-les.
Mais moi, justement, j'avais eu un partenaire, un seul d'ailleurs, qui m'avait demandé au lab en mode... Enfin, on avait prévu de se voir et tout pour justement... Pour avoir une relation sexuelle à la base. Enfin, on s'était déjà rencontrés avant, mais voilà. Et genre, il m'avait demandé explicitement d'être genre rasé complètement. Et j'avoue que avec le recul maintenant, je suis là en mode, en vrai, c'est méga problématique. Et genre, au final... Perso, j'ai pas envie de le faire et je le fais pas. Et genre, il y aura ce qu'il y aura. Mm-hmm. Et tu prends, voilà. tu prends ou tu laisses, ouais. Mais je fais pas maxi effort non plus par rapport à ça, quoi.
Il y a une super scène dans le film, Je ne suis pas un homme facile. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est une dystopie dans laquelle on vit dans une société matriarcale. Donc, c'est assez drôle de voir tout
le monde. Je dirais pas une dystopie.
Non, tu dirais pas une dystopie.
Non, parce que...
Enfin, une réalité alternative, plutôt. Ouais. Okay. Donc, une réalité alternative dans laquelle on vit dans un monde matriarcal. Et à un moment, il rentre avec une femme et elle lui ouvre la chemise. Puis en fait, c'était épilé. Enfin, il s'était pas épilé, du coup, le torse. Puis elle le regarde, puis elle est là, mais... Hey, comment tu peux faire ça? C'est horrible, tu me dégoûtes. Et du coup, elle part et c'est clairement justement la dénonciation du jugement d'apilosité des femmes. Ouais. Et ce qui est trop drôle, c'est que par la suite, du coup, son pote vient et l'épile de partout et il se fait un ticket de métro sur le torse. Et du coup, c'est quand même assez édifiant quand même de la problématique. Voilà.
Mais si jamais, du coup, quand même, petit point médical, les poils sur la vulve, c'est hyper important, notamment pour la lubrification, pour garder une bonne flore vaginale. Si vous vous épilez trop souvent ou que vous rasez tout le temps et que vous n'avez jamais de poils, vous risquez des mycoses, vous risquez de la sécheresse vaginale, vous risquez évidemment un dérèglement de votre flore vaginale, plus de risques aussi d'infection urinaire. Donc franchement, gardez vos poils, aimez-les, ils sont beaux, vraiment.
Mmh. Et au-delà, il y a aussi les IST et MST par lesquels nos poils nous protègent quand même. Ils sont là pour nous protéger un minimum de toutes ces maladies. Et donc non, n'avoir pas de poils, ça ne veut pas dire qu'on est plus propre, au contraire.
Ouais.
Bon, clairement. Après, on ne juge pas non plus les gens qui ont envie de se raser. Bien sûr, rasez-vous bien sûr. Si vous le sentez
exactement.
Aussi comme ça.
Oui, bien sûr. Pilez-vous, la cire, le laser, tout ça.
Faites ce dont vous avez envie.
Exactement.
Mais il faut que ce soit un choix personnel. Propre pour votre corps et pas pour ceux des autres.
Voilà.
C'est ça.
Tout à fait.
Et on me fixe parce qu'en fait j'ai pris l'habitude avec vous parce que vous discutez quand même pas mal et puis je vous laisse un peu tourner mais écoutez très bien.
Mais on peut faire une petite il est quelle heure? Il est
21h donc déjà... on peut faire une petite pause musicale et vous dire au revoir
voilà
après.
Par exemple.
Ouais.
Ça marche.
Parfait.
Alors j'en suis où avec mes boutons? j'ai le double jeu de mais du coup je vous laisse avec Maxence et son titre sur mon Scoots.
Such a vibe, j'adore, je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que c'est assez agréable, assez lunaire, genre c'est trop trop cool. On est bientôt arrivé au terme de cette super émission sur les premières fois, on s'est des fois un petit peu égaré, nous en sommes désolés.
On se laisse emporter.
Mais c'est aussi la preuve qu'il y a quand même une espèce d'énergie aussi dans laquelle on a envie d'échanger, de discuter. Donc c'est en soi une bonne nouvelle. Si on va essayer de refaire des émissions avec lesquelles on va aussi vous proposer prochainement de choisir les thèmes d'émissions. Comme ça, on sera aussi plus raccord avec vos envies et vos questionnements. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission ?
Moi, j'adore le talk show comme ça. Enfin, j'en ferai tous les deux jours.
C'est vrai que c'est hyper agréable. Je ressors souvent... Ouais. Très très bien chargé, genre je suis contente.
Ouais, je préfère beaucoup. Il y a pas toute cette préparation à faire, donc tu te renseignes vite fait un peu sur le sujet du jour si t'es pas trop au courant. Mais au final, c'est plus ton ressenti, tes expériences ou tes non-expériences si t'en as pas. Enfin, c'est tellement plus libre au final. Je trouve que une chronique qui est bien dictée, qui a un temps précis, etc. Enfin, moi je préfère largement.
Franchement, ouais, c'est hyper cool. Enfin, c'est vraiment très soirée entre potes. Et on part dans des débats. Et puis, en fait, voilà. On a switché de sujet au moins trois fois. Mais parce qu'en fait, on partait dans plein de directions. Mais juste, c'était hyper cool.
En tout cas, bienvenue. C'était super chouette de t'avoir ici ce soir. En tout cas, je pense que c'est partagé. On adore tes interventions. Donc, reviens, s'il te plaît.
Oui.
Ça nous ferait trop plaisir de t'avoir dans encore plein d'autres émissions.
Peut-être qu'on en fera... toi t'es pas là Clara la semaine prochaine, non. Mais peut-être du coup faudrait trouver un remplaçant, une remplaçante.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont
on va trouver
totalement apte et heureux de prendre mon rôle d'animatrice pour la prochaine fois seulement.
On pourra éventuellement te remplacer. Il me semble qu'on a tous les deux la formation animateur.
Oui, et puis j'ai aussi, si jamais.
Oui, ok, parfait. Alors, c'est cool.
Après, la semaine prochaine, j'ai remise de bachelor. Mais...
Ah, on a beaucoup de, on a beaucoup d'examens. Enfin, certaines d'entre nous ont des examens de fin d'année, de fin de semestre.
Je les avais presque oubliés. Merci de me
rappeler. En tout cas, on espère que votre session d'examen se passer au mieux, que les fêtes arrivantes vont vous permettre de souffler un petit peu, de réécouter aussi les podcasts qu'on a fait avant dans la saison 5, sauf erreur du coup de la banane rose. C'est juste, on vient de lancer la saison 5 en septembre.
Sauf erreur.
Isn't it?
Ouais.
En tout cas, la saison 5, donc n'hésitez pas à réécouter du coup les premiers podcasts également pendant les fêtes, de nous écrire aussi si vous avez envie de sujets particuliers pour la rentrée ou pour la semaine prochaine, même si vous êtes déjà pressé d'avoir des réponses.
Oui.
Sur ce, on vous souhaite une excellente... Tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, encore non, merci à ceux et celles qui ont réagi avec nous durant l'émission. Hein. Vous pouvez toujours, maintenant c'est un petit peu tard, mais pour la prochaine fois, je vous le dis, vous pouvez le faire au 079 921 4700 sur WhatsApp uniquement pour le moment, mais je vais essayer de parler à Romy pour pouvoir peut-être intégrer Telegram, puisque je connais certaines personnes qui n'utilisent pas WhatsApp, par exemple.
Tout à fait.
Et qui pourraient être sympas, mais du coup, voilà. Et n'hésitez pas à dire sur l'Instagram quel sujet vous intéresse pour la semaine prochaine. Et on verra si ça joue, mais avec des chances, pour qu'on vous écoute.
Ouais.
Avec plaisir. En tout cas, une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine. Et courage pour ce qui vient, parce que pour les étudiants et étudiantes, ça va être très rock'n'roll. On va dire ça comme ça. Je cherchais le bon mot. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée à tous et à toutes.
Bonne soirée, bisous.